Bonjour à tous et à toutes. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et merci pour ces louanges. Merci pour cette lecture. Et je vous invite à la réflexion et au souvenir en ce week-end de Pentecôte, afin que nous puissions nous remémorer ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc nous avons lu le texte. Donc de Actes, chapitre 2, versets 1 à 15. Alors j'aimerais que nous voyons ensemble quatre points. D'abord, faire un petit peu d'histoire, hein, pour rappeler qu'est-ce que ça veut dire Pentecôte. Ce qui a précédé Pentecôte, les annonces, les récits, puis les réactions. Que s'est-il passé suite à la Pentecôte, et enfin les conséquences. Alors, c'est la deuxième des trois solennités annuelles du peuple juif. Il y avait Pâques, la fête des semaines, et puis la fête des tabernacles. Trois grandes fêtes, lors desquelles tout homme d'Israël devait se présenter devant le sanctuaire. C'était la première des fêtes relative aux récoltes, la fête des semaines. Appelée ainsi parce que sa date était fixée 7 semaines après l'offrande de la gerbe des prémices de l'orge, symbole de la consécration des moissons. La gerbe était balancée le lendemain d'un sabbat. La fête des semaines prit aussi le nom de Pentecôte, parce qu'elle se célébrait le 50e jour après le balancement de cette gerbe. Et en grec, Pentecôte signifie 50e. 50e. Qu'est-ce qui a précédé Pentecôte? Quelles ont été les annonces et les récits pour annoncer ce qui allait se passer à la Pentecôte? Donc dans Actes chapitre 1er, au verset 1 à 13, que je vous invite à lire ensemble, après qu'il eut souffert, donc Jésus bien sûr, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il préparait ses disciples à ce qui allait se passer après. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous annonçais, dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés, vous serez remplis du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Vous voyez, il y avait encore un peu de confusion dans leur esprit, parce que, souvenons-nous, ils attendaient surtout un roi libérateur par rapport aux envahisseurs romains, aux occupants, et un roi qui aurait réuni son peuple. Mais Jésus leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Nul ne le sait. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce que vient là d'annoncer Jésus va se passer dans le récit qui va se dérouler après. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. et dire « Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » C'est un aller-retour, c'est pas un aller simple. Alors ils retournèrent à Jérusalem, comme Jésus leur avait recommandé, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat, environ 1 kilomètre. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était leur lieu de rencontre, leur lieu de réunion. Et puis remontons, donc là nous sommes quelques jours avant, Jésus annonce bien ce qui va se passer, pas dans les détails, mais il dit que vous avez été baptisé d'eau, hein, quelque chose de physique, mais là vous serez rempli d'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvenons-nous, le prophète Joël, qu'avait écrit le prophète Joël? Dans Acte 2, hein, il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans Acte 2 pour vraiment expliquer le phénomène de la Pentecôte. Dans Acte 2, chapitre 2, verset 17, « Mais c'est ici ce qui a été écrit par le prophète Joël, donc Ancien Testament. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges, en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et puis, un peu plus loin, à partir du verset 29, Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, certes, qu'il a été enseveli, oui, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi vous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce que nous avions vu ensemble au moment de Pâques. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes tous témoins. Il est resté 40 jours, Jésus, après sa résurrection, avec ses disciples, et pas seulement avec ses disciples, parce qu'il s'est montré à de nombreuses personnes. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. C'est l'accomplissement de tout ce qui avait été annoncé. Et puis dans Luc, au chapitre 24, verset 45, alors, il leur ouvrit l'esprit. Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et voilà, dans Actes, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Voyez, c'est clair. L'intelligence de ces hommes et de ces femmes va s'ouvrir. Ce n'est plus une écoute de Jésus avec le cœur, les sentiments, avec l'intelligence, mais l'intellectuel. Mais là on parle d'Esprit Saint. On parle de l'ouverture de notre esprit aux choses de Dieu. Pas simplement savoir lire, savoir écouter, savoir entendre, mais la compréhension des Écritures. Jésus devait souvent, et tout le temps d'ailleurs, expliquer ce qu'il voulait dire, parce que les gens qui étaient autour de lui ne comprenaient pas. Là, aujourd'hui, nous avons cette faculté de comprendre les Écritures, en tout cas ce que Dieu veut bien nous faire comprendre. Alors voyons le troisième point, les réactions. Quelles ont été les réactions à ce moment de Pentecôte? Alors nous en avons lu, bien sûr, quelques extraits, là, à partir du verset 15. Alors tous ceux qui sont autour, et je ne sais pas si vous avez eu la curiosité, ou si vous allez avoir la curiosité, nous avons lu plusieurs noms de personnes se trouvant dans Jérusalem, et on s'aperçoit qu'il y avait des représentants de tout le bassin méditerranéen. La Crète, la Mésopotamie, le Liban, l'Irak, hein, si on veut les actualiser, et ils étaient tous à Jérusalem. Et on voit bien qu'ils ne parlaient pas tous la même langue. C'est comme si, il passait un événement dans Paris, et puis qu'il y a des représentants de toute l'Europe. Alors vous savez que quand il y a des colloques, des réunions, il y a toute une armada de traducteurs, avec chacun a ses écouteurs. Et donc voilà, instantanément, la personne qui parle, son discours est traduit dans plein de langues. Et là, ces hommes parlant différentes langues, dialectes, se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ces personnes, il y avait à peu près 120 personnes hein, dans la chambre haute, hein. Il n'y avait pas que les disciples, il y avait des hommes et il y avait des femmes, se mettent à parler des langues qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes, mais que ceux de l'extérieur comprennent. N'est-ce pas miraculeux? L'action du Saint-Esprit. Ils étaient tous dans l'étonnement. Mais qu'est-ce qui se passe? Et ne sachant que penser, effectivement, ils se disaient les uns aux autres, mais que veut dire ceci? Alors, il y en a qui se moquent, bien sûr. Ils se disent, mais ils ont déjà bu. Hein, Hélène, dans sa traduction, elle dit que c'est la troisième heure du matin, la troisième heure du jour, en fait, c'est 9h le matin. Il y a quand même peu de personnes qui sont ivres à 9h du matin, même s'il peut y en avoir. Mais enfin, 120 personnes, ça fait un peu beaucoup. Mais alors certains quand même se moquent. Alors Pierre se présente, élève la voix et leur parle en ces termes. « Hommes, vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles, nous ne sommes pas ivres. » Nous ne sommes pas ivres. Il y a autre chose. Un phénomène miraculeux. Dieu, par son Esprit Saint, est en train de préparer l'envoi de sa parole dans le monde. Jérusalem, la Samarie, le monde entier. Dans Acte 2, chapitre 2, donc verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Une autre réaction. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous ? Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, par les eaux du baptême, pour le pardon de vos péchés, reconnaissez que vous êtes pécheurs, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. À l'époque, la génération était déjà perverse. Alors aujourd'hui, elle est encore davantage perverse. Et Dieu nous dit, sauvez-vous, tant qu'il est temps, de cette génération perverse. Certains se sont moqués, certains ont compris qu'il y avait quelque chose de, on va dire, d'inhumain, parce que d'incompréhensible à l'intellect humain. Mais que se passe-t-il ? On parle du royaume de Dieu, on entend ces gens parler dans ma langue, et que même ils ne sont jamais sortis de leur village ou de leur contrée. Et eux viennent voir les apôtres en disant, que devons-nous faire pour entrer dans cette compréhension du royaume de Dieu ? Mais de toute façon, ces réactions, nous l'avons toujours vues, même du temps de Jésus. Certains se sont moqués, certains ont chassé Jésus, d'autres l'ont accueilli, d'autres se sont laissés transformer. D'autres ont regardé leurs pieds, et d'autres ont levé les yeux au ciel. Aujourd'hui encore, cette réaction existe. Quelles sont les conséquences maintenant, quatrième point. Quelles sont les conséquences ? Et un peu plus loin, à partir du verset 40, toujours dans Acte 2, ceux qui acceptèrent sa parole, donc la deuxième catégorie, furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 2-3 personnes. 3000 âmes, 3000 âmes ont été touchées en ce jour de Pentecôte. Et il est dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Mais n'est-ce pas ce que Jésus avait annoncé ? Vous ferez des miracles. Vous ferez des miracles. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils avaient décidé de vendre leurs biens. Ils vendaient leurs propriétés, ils vendaient leurs biens, ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Auprès de tous ceux qui étaient aussi à l'extérieur. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. N'est-ce pas formidable ? N'est-ce pas formidable? Quand le Saint-Esprit a saisi ces personnes dans la chambre haute, ils ont été transformés. Eux-mêmes ont dit, si je peux même permettre une image, ils ont changé de dimension. Cette dimension terrestre qu'ils avaient avec Jésus est devenue mondiale et céleste. Ainsi fut fondée l'Église. Jusqu'à présent, nous ne parlons pas d'Église. Jésus était avec ses disciples, puis il allait vers les gens, il assemblait la foule, mais il n'y avait rien de fixe. Et là, on s'aperçoit que c'est la fondation de l'Église. Les chrétiens se rassemblaient. Le Saint-Esprit fut accordé sans distinction d'âge. Dans cette pièce où se trouvaient 120 personnes, il n'y avait pas que des hommes d'une certaine tranche d'âge. Il y avait des hommes, il y avait des femmes, il y avait des enfants. Et Dieu ne choisit pas. Dieu répand. Soit je me moque, soit j'accepte. Soit j'accepte que l'Esprit de Dieu frappe mon esprit et je suis transformé. Soit je le rejette. Auparavant, l'Esprit Saint avait été accordé avec puissance aux prophètes qui avaient compris, qui avaient senti, qui avaient distingué, qui avaient transmis. Mais ça, c'était ponctuel, sur certaines personnes bien précisément, et à certains croyants aussi. Mais ici, nous assistons au début de la dispensation de l'Esprit Saint à tous. À présent, le baptême, les dons et la plénitude de l'Esprit sont offerts à tout témoin de Christ, sans l'observation de rites particuliers. Il n'y a pas de rite à accomplir. Hein. Il n'y a aucun rite dans l'effusion du Saint-Esprit dans cette chambre haute. Et par la suite, d'ailleurs. Avec cette effusion générale, le Seigneur va agir par l'Église, que son Esprit va fortifier, développer, agrandir, édifier sur toute la terre. Dans Actes chapitre 3, versets 1 à 10, on a encore une conséquence du fait d'être rempli de l'Esprit Saint. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Faites le calcul, hein. 3e heure, c'est 9 heures du matin. Et là, c'est donc la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Peut-être qu'ils ont une bourse bien remplie d'or qui va me permettre de manger, peut-être de changer de vêtements, peut-être d'avoir un lieu un peu plus salubre. Mais là, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Amen. Lève-toi et marche. J'ai rien, mais je vais te donner ce que le Seigneur nous a accordé. Lève-toi et marche. En le prenant par la main droite, il le fit lever, et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Miracle de Dieu. Par ceux qui se sont laissés remplir du Saint-Esprit. Ceux qui ont compris qu'ils étaient capables de faire le même miracle que Jésus était capable de faire. Et d'un saut, le gars, il fut debout et il se mit à marcher. Et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Et tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Hey, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Même avec 1 million de pièces d'or, comment on aurait pu transformer ses chevilles et ses pieds beaux en pieds vigoureux, si ce n'est qu'un miracle? Il reconnaissait que c'était le même gars qui était assis chaque jour à l'entrée du temple, à la même porte. Il dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Vous êtes sûr que c'est le même? Oui, c'est lui, c'est moi, regardez mes pieds. Et ils furent tous remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Et là, on retrouvera encore les deux mêmes réactions, soit oui, soit non. Dans Éphésiens, au chapitre 1er, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Voilà. Acte des apôtres. Vous savez, c'est Luc, hein, c'est Luc qui a écrit l'acte des apôtres. Et il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, donc dans son épître, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Jésus a préparé. Alors, il n'est pas dit que tous les apôtres sont allés à Jérusalem, on ne sait pas, mais ceux qui y sont allés, regardez ce qui leur est arrivé. Comme quoi, obéir à Dieu, n'est-ce pas la chose la plus merveilleuse? Qu'est-ce que cela montre dans tout cela de la Pentecôte? Ben, la fidélité de Dieu. Ce que nous avons trouvé dans l'Ancien Testament, nous le trouvons dans le Nouveau Testament et nous voyons combien de choses se sont accomplies. L'accomplissement aussi des promesses de Dieu. Ce que Dieu promet, il l'accomplit. Et nous, qu'est-ce que nous voyons encore? Que Dieu, par son Esprit Saint, nous équipe. Il équipe ses bien-aimés, ceux qui ont accepté de le suivre. Nous avons une dimension supérieure à ceux qui refusent la parole. Nous sommes capables de... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes capables de comprendre les Écritures, comme je disais, ce que le Seigneur nous permet de comprendre. Cela nous permet d'avoir une relation particulière avec Dieu, directement, sans passer par quelqu'un d'autre. Nous n'avons plus besoin que quelqu'un nous, comme Jésus le faisait, nous parle en parabole pour comprendre. Notre esprit est ouvert à l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas formidable? Cela ne nous ouvre-t-il pas de nouveaux et de nombreux horizons? Bien sûr que si. Que le Seigneur vraiment bénisse sa parole, qu'il nous permette de réaliser l'immense privilège que nous avons d'avoir l'Esprit Saint de Dieu. Amen.